faire une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Nous allons dégager trois axes dans ces deux versets, deux points sur lesquels nous allons nous arrêter. Trois points, pardon, sur lesquels nous allons nous arrêter. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Le titre de mon message, de ma réflexion ce matin, c'est « Donner un sens à nos journées et donner un sens à notre vie ». En introduction, nous voyons que Paul, dans le verset 10, ça sera l'introduction de notre réflexion, dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Et la version parole vivante dit « c'est lui qui nous a recréés ». Et ce texte parle bien sûr de la nouvelle naissance, du fait que lorsque nous avons accepté Jésus dans notre cœur, eh bien nous avons expérimenté ce que Jésus dira à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nous avons été recréés par Jésus, notre vie a été recréée par Jésus. Moi, vous connaissez mon témoignage, moi qui étais un ancien dealer, un ancien drogué, qui était un voyou, qui cassait à peu près tout ce qu'il y avait sur son passage, eh bien ma vie a été recréée, et aujourd'hui j'ai la joie de prêcher et d'annoncer l'évangile. C'est quelque chose d'extraordinaire, et si je faisais monter sur l'estrade, eh bien des hommes et des femmes ici dans cette assemblée, ils vous expliqueraient la même chose, eh bien c'est que notre vie a été recréée, et qu'en nous recréant, eh bien Jésus a accompli quelque chose de nouveau, il nous a fait rentrer dans un chemin nouveau. On n'est plus sur l'autoroute, on n'est plus sur un chemin large et spacieux, mais on est sur un chemin que Jésus qualifie lui-même d'étroit et resserré, mais c'est un chemin qui est glorieux. C'est un chemin sur lequel nous apprenons à découvrir la fidélité, l'amour de Jésus. Je le dis souvent, mais vous savez que les plus beaux paysages, c'est pas au bord des autoroutes qu'on les trouve. Les plus beaux, les forêts, les plus beaux sommets, c'est pas au bord des autoroutes qu'on les trouve. Mais parfois, il faut gravir des chemins escarpés. Parfois, il y a un fossé, il y a une falaise à droite ou à gauche. Mais lorsqu'on arrive au bout, eh bien, on voit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que Jésus nous promet. Il nous dit que peut-être que le chemin sur lequel cette recréation nous a engagés peut paraître quelque peu étonnant, mais il n'en reste pas moins que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'au cours de notre vie chrétienne, nous verrons des paysages fabuleux. Nous verrons des guérisons. Nous verrons des vies changées. Nous verrons nous-mêmes notre vie être changée et notre vie être façonnée. Mais ce n'est pas un chemin où nous sommes seuls. C'est un chemin qui croise toutes sortes d'autres chemins. Le chemin de ma vie a croisé le chemin de votre vie. Et en cela, eh bien, nous faisons des rencontres d'hommes, de femmes, des rencontres même avec le Maître, qui jalonnent notre parcours. Et à ces hommes, à ces femmes, nous avons vocation à leur faire du bien. Et je pense que c'est en cela que Paul parle des œuvres bonnes que notre Dieu a préparées. Notre chemin n'est pas un chemin qui suit tout le monde de manière parallèle, mais notre chemin est un chemin qui se croise. Parfois on a l'impression d'y être bien seul, et puis on fait une rencontre, on fait un bout de chemin avec Céline, un bout de chemin avec Kevin, et puis ensuite, eh bien, nos routes se séparent, mais gloire à Dieu, le Maître reste toujours avec nous. Et le grand malheur de l'homme, c'est qu'il ne veut pas rentrer dans les plans de Dieu. Et peut-être que notre vie chrétienne nous paraît bien triste, nous paraît bien morne, parce que nos yeux ne sont pas habitués à découvrir les œuvres bonnes. Et vous avez vu que je n'ai pas utilisé le langage bonnes œuvres. Les œuvres bonnes que notre Dieu a préparées pour nous. Vous croyez qu'en cette journée, Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que vous les accomplissiez? Vous croyez que sur le long de votre chemin, là, de cette journée, eh bien, Dieu a un plan pour vous. Le bon berger a disposé des choses, des personnes à qui vous pourrez faire un sourire, que vous pourrez encourager, à qui vous pourrez donner un bout de pain, à qui vous pourrez donner quelques grains de sel. Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous puissions les accomplir. Nous y reviendrons. Mais la problématique de notre réflexion, c'est tout simplement vivre notre vie d'une manière, avec une attitude différente. Nous ne subirons plus nos journées, mais nous les ferons. Nous ne vivrons plus nos journées avec Dieu comme étant assaillis par les événements, mais nous serons en quelque sorte des chercheurs d'œuvres bonnes. Lorsque nous lèverons devant notre pot de chocolat, devant notre Benko et notre jus d'orange, hein, avec nos cracottes ou alors avec nos biscottes, bien on se dira, Seigneur, quelles sont les œuvres bonnes que tu veux que je fasse, que tu veux que j'accomplisse aujourd'hui ? Et non plus, oh là 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 là, il va falloir aller travailler, oh là là, il va falloir aller au culte, et le pasteur il va encore prêcher une demi-heure, oh là 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 là, et puis il est enrhumé en plus aujourd'hui, c'est galère, on comprend rien ce qu'il dit. Non, Seigneur, qu'attends-tu de moi ? Dans chaque moment, dans chaque instant que tu me donnes, que je sois malade, que je sois en forme, que je sois soucieux, que je sois heureux, il n'en reste pas moins que à chaque instant de ma vie, que dans chaque 24 heures que Dieu me donne de vivre, il a mis devant moi des œuvres bonnes pour que je les accomplisse. Ce texte nuance les choses. Paul nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que nous accomplissions, mais il explique dans le verset 8 que ce n'est pas par ses œuvres, l'accomplissement de ses œuvres bonnes que nous sommes sauvés, mais que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et ça, c'est un principe qui jalonne notre vie et qui doit être le fondement de notre vie. Je ne fais pas des œuvres bonnes pour être sauvé, mais c'est je fais des œuvres bonnes parce que je suis sauvé. Le fondement de ma foi et le fondement de mes œuvres bonnes, ce n'est pas le fait de les accomplir, mais c'est le fait que j'ai cru que le Fils de Dieu, Jésus, est venu sur la terre des hommes pour me sauver. Pour me sauver. Et je trouve que c'est un principe qui est éminemment juste. Parce que lorsque l'on est né dans une famille riche, c'est beaucoup plus facile de faire des œuvres bonnes que lorsque l'on est né dans une famille pauvre. On pourrait donner notre argent, on pourrait donner vendre notre maison, etc. On pourrait se dire, c'est pas juste lui, parce qu'il fait tout ça, et bien il peut aller au paradis, et moi qui suis finalement petite gens, je ne peux rien faire, je ne peux pas être sauvé. Moi qui suis malade, je ne peux pas faire grand chose, donc je ne mériterai pas mon paradis. Mais Dieu étant un Dieu juste, par définition, il a prévu un moyen juste pour sauver tous les hommes et toutes les femmes, parce que je crois que c'est la possibilité de chaque homme et de chaque femme de croire, n'est-ce pas ? Que l'on soit petit, que l'on soit grand, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, il n'en reste pas moins que Lucas comme Clervia, eh bien ils peuvent croire. Que David comme Benjamin, ils peuvent croire. C'est quelque chose qui est extrêmement simple. Et je discutais avec un jeune converti qui me disait, mais c'est tellement simple de croire. Pourquoi est-ce que les gens ne le font pas ? C'est tellement simple de croire. C'est pas vrai ? Eh, on est entre nous là, on n'est pas nombreux. On engobe des choses à longueur de journée hein, et on nous en fait avaler des pilules. Et pourtant, nos contemporains ont parfois du mal à croire que la route du paradis ne leur est ouverte qu'à la condition de croire que Jésus veut les sauver. Savez-vous que la seule condition pour être sauvé, c'est de croire que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix à votre place et de l'accepter. C'est la seule chose à faire. La seule chose à faire. Vous n'avez pas à faire le tour de Nantes sur les mains. Vous n'avez pas à donner votre fortune que vous n'avez peut-être pas. Vous n'avez pas à chanter pendant des heures et des heures. Mais la seule chose que vous ayez à faire, c'est croire que Dieu vous a aimé au point de donner ce qu'il avait de plus précieux. C'est simple, mais ça change tout. Maintenant, une petite nuance. Il faut faire attention que la foi ne devienne pas notre moyen de salut. Et pourtant, c'est ce que vous venez de dire, je ne comprends pas. La foi n'a pas vocation à remplacer Jésus. Parfois, on peut trouver... Il fait beaucoup de foi, ça. Parfois, on peut trouver des hommes et des femmes qui font de la foi un instrument, solution et miracle à tout. Et ainsi, on ne croit plus en l'auteur de la foi, mais on croit au fait de croire. Parce que je crois, alors, eh bien, tout est possible. Oui. Encore faut-il que la foi ait été mise dans notre cœur par Dieu. On fait de la prière le moyen, la solution par excellence. Et ainsi, on adore la prière et non pas celui qui exauce la prière. N'oublions jamais que c'est Jésus qui est l'auteur et le rémunérateur de notre foi, que c'est lui qui la crée, hein, c'est lui qui la dépose. N'oublions jamais que le fait de croire que la foi n'a pas vocation à exaucer nos fantasmes, nos caprices, mais que la foi, elle repose sur la parole de Jésus, sur une promesse que le Seigneur nous a faite, soit de manière universelle par sa parole, soit qu'il a planté dans notre cœur d'une manière personnelle. C'est très important, ça. Mais le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu, ça, c'est une promesse universelle. Et en cela, eh bien, chaque homme et chaque femme peut entrer, eh bien, en cela. Et c'est pour cela que Paul dit que, ok, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Mais la conversion nécessite des œuvres. Les hommes s'approcheront de Jean-Baptiste et leur diront « Repentez-vous, race de vipères, et portez des fruits dignes de la repentance. Portez des fruits dignes de la repentance. » Voyez-vous, lorsque je crois en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ma vie à l'intérieur, elle change. On peut dire que l'on croit en Dieu. Et l'apôtre Jacques dira que les démons aussi croient en Dieu. Mais qu'eux, ils font quelque chose de manière concrète, ils tremblent. Croire en Dieu ne suffit pas. Mais il est nécessaire de porter du fruit derrière. Mais non pas du fruit par nos propres forces, mais du fruit parce que nous abandonnerons notre vie aux mains du Seigneur, aux mains du Saint-Esprit. Le témoignage qui m'a énormément marqué, c'est le récit d'une femme qui était kleptomane. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de rentrer dans un magasin sans voler. Pourtant, elle aurait pu s'en empêcher. Hein, elle avait de quoi vivre autrement. D'ailleurs, son mari lui disait « Mais pourquoi est-ce que tu voles ?» Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, le lendemain, elle était dans le magasin, et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris quelque chose, on va dire un stylo, hein, une babiole, et puis arrivée à quelque chose grouillé dans son cœur. Alors, elle a posé le stylo, puis elle l'a payé. Avant, elle l'aurait pris. Et puis, elle fait un second magasin. Et dans le second magasin, eh bien, elle reprend quelque chose dans sa poche, comme elle faisait auparavant. Et là, pareil, arrive à la caisse, ben, elle le pose sur le tapis. Puis elle se dit, mais c'est bête ce que je fais. Et du jour au lendemain, alors que pendant des années, elle avait volé, elle s'est arrêtée de voler. Ce n'est pas par sa volonté qu'elle a cessé de voler. Mais c'est parce que elle avait cru en Jésus. Elle avait offert sa vie à Jésus. Elle avait cru que Jésus, sur la croix, était capable de la libérer, non seulement de ses péchés et de la condamnation, hein, qui l'a séparée de Dieu, mais que Jésus était capable également de la rendre meilleure. Hein, et que celui qui est venu habiter en elle était capable de la changer. Y a-t-il dans votre vie, dans ta vie, quelque chose que tu ne peux pas t'empêcher de faire? Je vais être un peu brusque ce matin, c'est mon habitude. Vous ne vous en donnez pas. Regardez les saletés sur Internet. Pornographie. Ça ruine un foyer, ça, vous savez. La drogue. La cigarette. Simplement une haine vis-à-vis de quelqu'un. L'incapacité à aimer quelqu'un dans votre famille, peut-être. Peut-être même l'un de vos enfants. Sachez que peut-être même votre père, pour ce qui est d'un jeune ou d'un homme. Mais sachez tout simplement que Jésus est capable de vous faire porter une œuvre bonne et ainsi de changer votre vie. Simplement en croyant que sur la croix, il a porté votre péché. Simplement en croyant que sur la croix, il a porté votre fardeau et qu'il vous a d'ores et déjà libéré. La conversion nécessite des œuvres, qu'elles soient positives, c'est-à-dire faire des choses, ou qu'elles soient négatives, c'est-à-dire ne pas faire des choses. Hein? Il faut porter des fruits qui soient dignes de la repentance. La Bible a plusieurs textes qui demandent que nous pratiquions des œuvres avec assiduité. Je récapitule. Ça va, vous me suivez? Malgré ma voix de canard? C'est bon? Hein? Je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais je suis sauvé par grâce, simplement en croyant ce que Jésus a fait pour moi. De ce fait, eh bien, le Saint-Esprit me donne la possibilité d'accomplir des œuvres bonnes, mais il ne me demande pas de les pratiquer avec minutie, avec parcimonie, pardon, mais avec minutie, avec parcimonie, mais il me demande de les pratiquer avec assiduité. Épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et quoi ? Et zélé pour les œuvres bonnes. Non pas timide pour les œuvres bonnes, mais zélé pour les œuvres bonnes. Second épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 8. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, et le « afin que » est important, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire tous vos besoins, et en France on est bien outils, vous ayez encore abondance pour toutes bonnes œuvres. Second épître de Paul à Timothée, au chapitre 3 et au verset 17. Afin que l'homme de Dieu, mais nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu, soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Ce que il signifie, c'est que je suis sauvé à un grand prix, donc je pratique des œuvres bonnes qui sont peut-être proportionnelles au prix du salut qui m'a été accordé. Que le Seigneur nous aide. Parce que quand je lis bien l'évangile de Jean, chapitre 15, je vois que le sarment qui ne porte pas de fruits, il sera retranché et il sera foulé aux pieds et jeté au feu. On peut être sauvé, mais on peut perdre son salut, finalement, en étant victime de stérilité. Que le Seigneur nous fasse prendre conscience du fait que je ne pratique pas des œuvres pour être sauvé, mais que cependant, ma foi sans les œuvres, comme dira l'apôtre Jacques, elle est morte. Elle est morte. Parce que si je ne produis pas d'œuvre, cela signifie que la sève, elle n'est pas là, ou elle n'est plus là. Alors peut-être ai-je besoin de me remettre et de me replacer devant Dieu. Second point que l'apôtre aborde, c'est qu'il ne s'agit pas d'accomplir des œuvres pour les œuvres, mais de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées. Il est nécessaire de rentrer non pas dans les œuvres que nous aimerions faire, mais de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées lui-même pour nous. Ce qui signifie que nous ne rentrons pas dans les œuvres qui sont forcément gratifiantes, que nous ne rentrons pas dans les œuvres qui sont forcément visibles, que nous ne rentrons pas forcément dans les œuvres qui nous semblent nous correspondre. Nous ne rentrons pas dans les œuvres auxquelles nous sommes forcément habitués. Nous ne rentrons pas dans les œuvres forcément auxquelles nous pensons. Mais nous rentrons dans les œuvres que le Maître a décidées pour nous. Paul ne dit pas dans les œuvres bonnes que vous déciderez, mais dans les œuvres bonnes que le Maître décidera pour vous. Et là, il y a quand même une nuance qui est importante. Ce n'est pas moi qui décide quelles sont les œuvres bonnes qui vont être placées devant moi, mais je rentre dans celles que le Maître a décidées pour nous. Je crois que parfois, pour accomplir ces œuvres bonnes, il faudra être capable de se faire quelque peu violence. Il faudra être attentif. Il faudra être ouvert afin de pouvoir y rentrer. Il est nécessaire de rentrer dans les œuvres du Père dans le temps où lui l'a décidé. Il y a des choses qui sont périssables dans notre vie spirituelle, savez-vous ? Des choses qui ne sont valables qu'une seule fois, que l'on ne retrouvera jamais. Au nombre de ces choses, il y a parfois le moment où l'on entend la voix de Dieu et où on l'en refuse. Combien de personnes ai-je vu être touchées par l'Évangile ? Par le fait que Dieu les aimait, qu'ils avaient du prix aux yeux du Maître. Là, leur cœur a été touché. Mais simplement par orgueil, par peut-être inconscience aussi, et n'ont pas répondu à la voix du Maître. Et ainsi, un endurcissement s'est créé. Et quelque chose de périssable est revenu. Et cette chose qui a été déposée dans leur cœur a péri, a perdu de sa valeur. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parfois Dieu ne parle qu'une seule fois. Je crois qu'il parle plus souvent, mais peut-être est-ce la dernière fois que le Seigneur nous garde. Deuxième chose, un don spirituel. C'est quelque chose qui est éminemment périssable. Le don spirituel que je devais donner ce matin, je ne peux pas le donner la semaine d'après. Parce que la personne pour qui il était, si elle n'est pas là la semaine d'après, il fera pchit, comme dirait un de nos anciens présidents de la République. Il fera pchit. Parce que, ou alors, la situation aura changé, parce que l'état de cœur ne sera pas le même. Un don spirituel est quelque chose qui est éminemment périssable. Prenons-en conscience. Trop louange est quelque chose qui est éminemment périssable. Ce que Jésus veut, c'est notre louange d'aujourd'hui. Il ne veut pas qu'on la reporte à demain. Demain, il voudra qu'on lui apporte notre louange de demain, mais pas celle d'aujourd'hui. Choses qui ne sont pas transposables. Les Israélites, la manne. Eh bien, ils pouvaient essayer d'en ramasser le double. Hein. Et que se passait-il? Elle pourrissait. Et je pense que Dieu a une parole pour nous chaque jour. A quelque chose à nous donner chaque jour. Et qu'on ne peut pas doubler notre piété, notre vie de piété, mais qu'elle est nécessaire d'être régulière. Sinon, elle périt. Elle est périssable. Une journée, c'est quelque chose qui est éminemment périssable. Comme dit Samuel de temps en temps en introduction du culte, chaque jour que l'on vit est particulièrement unique. Vous ne reverrez plus de journée comme, eh bien, aujourd'hui. Apprécions-les. C'est tous des cadeaux de Dieu. J'aime beaucoup le psaume 118 lorsqu'il dit, le psalmiste dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous, pour tous, un sujet de joie. Qu'elle soit pour tous un sujet de joie. C'est éminemment périssable une journée. Parce qu'une journée est faite de rencontres que l'on ne refera pas. Et la question que je me pose, c'est durant les journées que Dieu nous a données. Sortez les mains de vos poches pour ne pas me jeter de projectiles. Combien d'œuvres bonnes avons-nous laissé périr? Que nous ne pourrons pas refaire. Ces œuvres que Dieu a décidées, il est donc nécessaire d'accepter que c'est Dieu qui décide et pas nous. Il est nécessaire de rentrer dans les œuvres au temps où Dieu a décidé. Il est nécessaire de prendre conscience que ces œuvres, elles sont faites sur mesure pour nous. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est qu'on peut le faire. On se souvient, Corinthiens chapitre 10, verset 13, que toute épreuve, que toute tentation qui nous est survenue, Dieu en connaissait déjà l'issue. Elle était faite sur mesure. Il la connaissait. Voilà. Rien de ce qui nous est arrivé n'était au-dessus de nos forces. Et je crois que tout ce que Dieu nous demande de faire avec notre main, c'est qu'on peut le faire. Donc, n'ayons pas peur. Même lorsque devant nous, il y a une œuvre bonne qui nous paraît être lourde à porter, être difficile, peut-être qu'elle nous coûte. Sachons que nous pouvons tout de même y entrer. Alors, troisième temps, notre réflexion. Quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de cela? Je suis sauvé par grâce, mais pour pratiquer des œuvres bonnes que j'identifie. Mais quelle attitude dois-je avoir devant mon bol de chocolat le matin? Première attitude, me semble-t-il, c'est que j'aborde mes journées non pas pour être servi par Dieu, mais pour être le serviteur de Dieu. C'est-à-dire que je me place dans cette optique de dire, Seigneur, on l'a entendu dans une prière, parle ton serviteur, écoute. J'aborde cette journée du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, comme une journée où finalement, je garderai toujours une connexion en Wi-Fi avec toi, et où tu pourras m'envoyer un mail dans mon esprit en me disant, tiens, cette personne a besoin de toi. Souris-lui. Offre-lui ton épaule pour qu'elle puisse pleurer. Invite-la donc à boire un café, un thé. Non, c'est cette connexion-là de dire, Seigneur, je me place à ton service. Ne me sers pas forcément. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu qu'il me bénisse. Je suis son fils. Est-ce que vous qui êtes parents, vos enfants ont besoin de vous supplier pour que vous leur fassiez du bien? Solène, est-ce que tu as besoin de supplier ton père ou ta mère pour qu'ils te donnent à manger? Non. Céline, est-ce que tu as dû supplier ta mère pour qu'elle soit gentille avec toi? Oups, mauvais exemple. Mon père prendra soin de moi. Je suis son fils. Je suis son fils. Donc, à partir du moment où je rentre dans les plans de mon père, il prendra soin de moi. Simplement, je me place en serviteur. Non pas, Seigneur, bénis-moi toujours. On peut le lui demander. Hein? On a bien le droit de demander un peu d'argent de poche à nos parents. Seigneur, utilise-moi. Je suis ton serviteur. Même s'il nous a appelés amis, il n'en reste pas moins que Jésus, lui-même, s'est considéré comme le serviteur de tous. Et j'aime beaucoup quand les apôtres se décrivent comme Paul, esclave de Jésus-Christ, Pierre, Doblos, esclave de Jésus-Christ, serviteur, etc. Premièrement, mon attitude face à ces œuvres bonnes, je suis et je demeure, je reste un serviteur. Deuxièmement, le chrétien doit être un scout. Toujours prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. Pas simplement quand j'ai envie. Pas simplement quand je peux. Pas simplement quand je suis bon poil. Mais vous êtes toujours de bonne humeur chez les chrétiens extraordinaires. Mais quand le maître veut, quand le maître le décide, et bien souvent, on est triste et on a du mal à vivre notre vie chrétienne. Parce qu'on aimerait servir Dieu quand nous on le veut. Mais on n'est pas dans le bon timing avec Dieu. Quoi. On n'est pas dans le bon timing. Je suis toujours serviteur et je dois toujours être prêt à rentrer dans les œuvres de mon Dieu. Même si ça ne correspond pas avec mon agenda et si ça ne correspond pas avec mon timing, c'est une vérité. C'est quelque chose qui doit demeurer dans mon cœur, qui doit demeurer en moi. Et puis, troisièmement, je dois vivre dans une attitude de foi mes journées, en sachant que je suis peut-être un chrétien qui est assis au fond de la salle, que l'on n'entend pas beaucoup. Je suis peut-être quelqu'un qui n'est pas important aux yeux des hommes. Mais je sais que mon Dieu a quand même des choses à accomplir pour moi. Et que nous soyons, blond, blonde ou brune, blond ou brun, jeune ou moins jeune, physiquement en bonne santé ou plutôt malade, Dieu a des choses bonnes que nous devons accomplir. Bonnes pour nous et bonnes pour les autres. Parce que quand je fais du bien à quelqu'un parmi vous, ben moi ça me fait du bien. Vous êtes bâti comme moi, hein, construit comme moi. Je me souviens de notre sœur Madame Cerdan. Elle était à l'hôpital. Oh, et puis elle n'était pas en grande forme, hein, à ce moment-là. Puis à côté d'elle, il y avait une mamie qui était aussi malade qu'elle. Eh ben, elle a fait du bien à cette femme, même en étant sur son lit d'hôpital. Elle est rentrée dans les œuvres bonnes que Dieu avait préparées pour elle. Moi, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné avec le peu de flot de voix qu'elle pouvait avoir. Elle a quand même béni cette femme. Quand même, c'est extraordinaire, ça. Attitude de foi. Cet après-midi, Dieu a des choses bonnes pour toi. Demain, Dieu a des choses bonnes pour toi. Vivons nos journées ainsi, en sachant que nous aurons l'occasion de faire du bien. Ça change un petit peu l'état de nos journées. Ça nous sort un petit peu de notre grisaille. Et quatrième état d'esprit dans lequel on doit vivre nos journées, c'est dans un état d'humilité. enlevons-nous de nos têtes. Qu'il y a de grandes choses et de petites choses. Enlevons-nous de nos têtes, de nos esprits, que nous sommes forcément voués à faire de grandes choses. Que dira Jésus aux nations lorsqu'elles passeront en jugement devant lui? Eh bien, à ceux qui auront été bien, il dira voilà. Lorsque vous m'avez vu nu, eh bien, vous m'avez donné, vous m'avez revêtu, vous m'avez habillé. Lorsque vous aviez vu que j'avais soif, eh bien, vous m'avez donné à boire. Lorsque vous avez vu que j'avais faim, vous m'avez nourri. Puis les nations lui diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons fait ça? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits. Souvenons-nous que celui qui donnera un verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète. Souvenons-nous que certains pourront exercer l'hospitalité, dire à l'apôtre, ont accueilli des anges. Donc, pour nous, servir Dieu, c'est bien souvent faire des grands miracles, donner des dons, des guérisons, voir des boîtes marcher, des aveugles voir. Et c'est vrai, nous le voyons, ces choses-là. Mais aux yeux de Dieu, donner un verre d'eau à quelqu'un, ça a le même prix que donner un don des guérisons comme Pierre a pu le faire dans Acte 3. Même valeur. L'échelle de valeur est totalement différente entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Ce qui est grand pour nous est parfois petit pour Dieu. Et je prends souvent cet exemple. Dans le second livre des rois, il nous est parlé d'un roi qui s'appelait Omri. Omri, c'était le papa d'Akab, qui était un roi totalement inepte. Sur Omri, je crois qu'il y a 8 versets dans la Bible. Pourtant, l'histoire des Assyriens nous montre que Omri était l'un des rois, un roi qui a eu quasiment un règne semblable à celui de Salomon. Il a construit énormément de choses, il a remporté énormément de victoires, de guerres, etc. Pourtant, la Bible ne mentionne Omri qu'à de peu de reprises et d'une manière parfois bien désagréable. Vous savez, ce qui est grand à nos yeux est souvent petit aux yeux de Dieu. Ce qui est grand à nos yeux est souvent petit aux yeux de Dieu. Mais ce qui est petit à nos yeux est parfois, et souvent même, je dirais, très grand aux yeux de Dieu. Très grand aux yeux de Dieu. Soyons humbles et acceptons de faire parfois des petites choses. C'est celles qui, dans les lieux célestes, nous rapporteront peut-être une piscine avec notre maison. Hein? Ou nous rapporterons peut-être un sauna, j'en sais rien. Peu importe. J'image les choses. Mais switchons notre manière de penser. En conclusion, deux points. Premier point, c'est que si je vis mes journées ainsi, en disant voilà, Seigneur, quelles sont les œuvres bonnes que je peux accomplir pour toi, alors je réaliserai pleinement mon identité de chrétien. Je serai heureux de vivre. Parce que chaque soir, je me dirais, oh bah tiens, j'ai fait du bien à la grand-mère qui était à côté. Je lui ai donné mon siège, je me suis levé du tram, je lui ai donné la place. Vous me direz que c'est que de la politesse, mais aujourd'hui, la politesse, ça devient pratiquement une œuvre bonne à accomplir. Hein. Tiens, je donnais un verre d'eau, je donnais, peu importe, je donnais un évangile. Et non seulement on l'aura fait, mais on saura dans notre cœur qu'on a ainsi servi l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Qui vous dit que cette grand-mère à laquelle vous aurez laissé votre place, vous ne la retrouverez pas un dimanche et que votre témoignage ne lui aura pas fait du bien. Et deuxième chose que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est un texte du livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 13. On peut le lire ensemble. Livre de l'Apocalypse au chapitre 14, à partir du verset 13, qui dit « J'ai entendu une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quel beau texte. Car leurs œuvres les suivent. Peut-être que, oui, c'est fatigant d'accomplir des œuvres bonnes sur cette terre. Mais on aura toute l'éternité pour se reposer. Et surtout, nos œuvres nous suivront. Nos œuvres nous suivront. Et c'est sur ces œuvres bonnes, qui sont autant d'or et autant d'argent et autant de perles précieuses, que l'on retrouvera au tribunal de Christ. Ces œuvres bonnes qui passeront là, sur le fondement de Christ. C'est sur ces œuvres-là que nous bâtissons. Et c'est elles qui resteront. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vivons nos journées ainsi. Seigneur, quelles sont les œuvres bonnes que tu veux que j'accomplisse? Non pas pour acquérir mon salut, parce que la foi seule sauve, mais comme conséquence de ma foi. Que le Seigneur vous aide, m'aide également. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour le bien que tu nous fais. Merci pour le chemin que tu as tracé, ce chemin parfait Seigneur sur lequel nous marchons.